Alors, c'est notre troisième chronique aujourd'hui avec Philippe Bouchard-Aucoin, qui est chargé de projet en aménagement et en changement climatique à la MRC de la Côte-de-Gaspé. Aujourd'hui, Philippe, tu vas nous parler des enjeux qui touchent l'eau sur notre territoire. Merci d'être là ce matin, Philippe.
Bonjour, ben merci bien de m'avoir invité. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler des enjeux qui touchent surtout la qualité et la quantité d'eau sur notre territoire, puis aussi des impacts des changements climatiques sur ce taux-là.
Premièrement, je veux savoir, est-ce qu'on a des enjeux au niveau de la qualité de l'eau?
Non, puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Notre eau potable est assez propre en Gaspésie, mais nos eaux de surface puis souterraines sont super bonnes, sont de très bonne qualité. Là où il y a un plus grand enjeu, c'est plus au niveau de la quantité qu'on a.
Et là, tu me surprends parce qu'on est entouré d'eau, des lacs, des rivières à saumon. Tu me dis qu'on manque d'eau?
On manque pas d'eau potable. On n'est pas à risque de sécheresse là, dans les prochaines années ou prochaines semaines. Là, on a une quantité suffisante pour notre population. Ce qui est important, par exemple, à comprendre, c'est le temps de réapprovisionnement. On consomme quand même beaucoup d'eau en Gaspésie. Puis si on pompe un peu trop, ben on risque l'épuisement. Tu sais, il y a deux méthodes principales là, pour avoir de l'eau ici. C'est prendre de l'eau de surface, comme dans un lac, par exemple, ou prendre de l'eau souterraine dans les nappes phréatiques. Dans les deux cas, il n'y a pas juste la pluie qui vient remplir la source. Il y a aussi, par exemple, la fonte des neiges, l'infiltration de l'eau par le sol, qu'il faut qu'on prenne en compte dans le réapprovisionnement.
J'imagine aussi que ça prend un certain temps, un certain délai là, pour que l'eau revienne dans son réservoir.
Oui, ça se fait pas après une bonne pluie. Là. On peut parler de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années avant qu'une source se re-remplisse. Si je vous donne un exemple pour les nappes phréatiques, là, un exemple de surconsommation que ça pourrait avoir, là, ben dans un cas extrême, si on assèche la source, on peut s'exposer à un affaissement de terrain. Sans parler de l'extrême, parce que ça, c'est quand même... faut pomper toute notre source puis qu'elle ne se remplisse plus. Un plus bas niveau de nappe phréatique, ça peut engendrer une intrusion d'eau salée sur les nappes côtières. Ce que ça veut dire, ça, c'est que l'eau va devenir pas trop consommable à cause qu'elle est trop salée. Ça peut venir, évidemment, affecter les écosystèmes locaux qui sont plus d'autres sources que d'eau salée. Puis bien, si on consomme plus sobrement, on aide à maintenir cet équilibre-là dans les systèmes naturels puis à garantir aussi une eau de qualité pour tous. Faut pas oublier aussi là, que quand on pompe plus, ben ça coûte plus cher. Comme moins consommer d'eau, ça aide non seulement à préserver notre ressource, qui est la plus importante, mais aussi à faire un peu d'économie avec les coûts de traitement.
Visiblement, là, même si on a beaucoup d'eau, c'est pas une ressource qui est infinie, même si ça peut sembler, là, tellement qu'il y a des lacs, des rivières, des endroits d'eau. Puis comme tu disais, ça peut nous coûter cher en tant que société, exemple, et les villes, les MRC, tout ça, qui viennent s'occuper de l'approvisionnement d'eau. Changement climatique là-dedans, comment ça entre en compte? On entend souvent parler que ça va causer des sécheresses, mais comment ça va affecter la Gaspésie? J'ai l'impression qu'on était dans une sphère différente, étant donné qu'on a autant d'eau, là.
Tout à fait. On est assez chanceux là, au Québec. Puis en Gaspésie, on va vivre des enjeux, mais on n'aura pas des sécheresses comme, par exemple, dans le sud des États-Unis parce que ben on a des lacs. On a au-dessus de 100 000 lacs et rivières entourés d'eau. On est très chanceux pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir d'impact. Ça veut juste dire qu'ils vont être un peu différents que plus avoir d'eau.
OK. Ça pourrait ressembler à quoi, par exemple?
Il faut comprendre une chose à propos des changements climatiques, c'est que ça cause un dérèglement du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est super important pour remplir les différents réservoirs d'eau potable. Fait que ce que ça va faire, les changements climatiques, on va vivre des précipitations qui sont moins fréquentes puis qui vont être plus intenses. On a déjà des redoux hivernaux qui sont plus fréquents qu'il y a quelques années, puis on a une moins bonne rétention d'eau au sol. Tout ça, là, ça fait diminuer la quantité d'eau disponible dans nos réservoirs. Puis, on ajoute en plus l'augmentation de la température qui peut faire évaporer les eaux de surface. Puis, je passe sur d'autres enjeux, mais on voit déjà que les changements climatiques vont faire diminuer la quantité. Avec l'augmentation aussi des inondations puis de la submersion les plus fréquentes puis les érosions côtières plus importantes, mais on va venir jouer aussi sur la qualité de notre eau. Puis, si notre eau devient moins de bonne qualité à avoir impropre, ben on perd notre quantité. Mm-hmm. Ça peut venir surcharger notre réseau d'eau. Fait que les inondations, les submersions peuvent venir, là, dans le fond, verser de l'eau contaminée dans de l'eau propre. Puis là, on se retrouve non seulement avec des enjeux d'inondation, déjà très graves comme la perte de maison ou une perte de terrain, on s'entend. Là,
c'est un impact direct. Là.
Oui, c'est ça. Puis juste ça, c'est déjà assez grave. Mais en plus, si on a un mélange d'eau propre et d'eau sale, ben là, on peut se retrouver avec des problèmes de santé généralisés dans une population. C'est sûr que ça prend des grosses inondations pour faire ça. On ne parle pas d'un petit débordement de lit de rivière, mais on s'attend à une augmentation de l'intensité des inondations. Donc, on se met à risque là-dessus. Pas juste ça, mais les submersions, avec les submersions, les inondations, ça peut aussi couper des tronçons de route assez vitaux. La Gaspésie, on est entouré par la 132. On peut penser là, à la Marthe en 2016, là, couper là, pendant 3 jours l'accès à la route principale. Ça peut emmener des gros enjeux. Puis je pense, j'en pense un peu là, sur les enjeux qu'on va vivre, mais la protection de nos ressources hydriques, là, c'est une protection pour notre santé, une protection pour nos infrastructures, puis aussi une protection pour notre portefeuille. L'eau, c'est partout. Puis je pense que je vais choquer aucun auditeur en disant que c'est probablement la ressource la plus vitale pour les humains.
Vraiment intéressant ce point de vue-là. Dis-moi, bon, on a une bonne sensibilité, je pense, à la consommation d'eau dans la région, mais est-ce qu'il y a des choses concrètement qu'on peut faire pour peut-être en faire un petit peu plus? Okay? Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire de plus en tant que citoyen là, pour aider ces situations-là?
Déjà, diminuer notre quantité d'eau, c'est sûr, il y a des manières plus faciles et plus complexes que d'autres, mais l'important, là, c'est de les faire. Fait que d'une manière un peu plus simple, on peut venir penser à arrêter les consommations, entre guillemets, inutiles. Par exemple, tout ce qui est laver notre asphalte, laver les bancs de neige pour que ça fond plus vite, on peut enlever ça. On peut utiliser des manières alternatives qui ne consomment pas d'eau. On peut fermer l'entrée d'eau quand on quitte pendant longtemps plutôt que de laisser couler un filet pour éviter que les conduits gèlent. Puis, évidemment, là, tout ce qui est gaspillage d'eau, les robinets qui coulent, qu'on oublie et tout, s'assurer, là, avoir une bonne discipline sur notre gestion de l'eau personnelle, c'est quand même bien. Bon, un peu plus difficile peut-être là, pour certains de nos auditeurs, là, de couper les douches de 20 à 10 minutes, voire même 5 minutes. Là, on peut parler d'une économie de plus de 1000 litres par semaine, ce qui est non négligeable. Puis après ça, si on veut se lancer dans des plus grands travaux, puis si on peut se le permettre, tout ce qui est récupération d'eau de pluie, récupération d'eau grise, des toilettes qui sont plus efficaces, des salles de bain qui récupèrent les eaux grises là, qui existent déjà, ça peut tout être des manières qui nous fait sauver de l'eau. Pour vous donner une idée, là, colmater une fuite dans la toilette, là, ça peut représenter à peu près 550 litres par jour.
Quand même!
C'est énorme! Donc, c'est surtout impressionnant là, quand on compare avec la quantité de litres qu'on consomme par jour, par personne au Québec. On est plus aux alentours de 260 pour l'ensemble du Québec, 260 litres par personne par jour, alors qu'on vise un peu plus vers le 180-220 litres. Là, c'est ça les objectifs d'ici 2025. Puis en Gaspésie, on est quand même à 316. Donc, on est quand même à peu près un peu plus de 100 litres là, de litres par personne par jour qu'on consomme de manière supplémentaire là, par rapport à nos objectifs, mais aussi au Québec. Donc, il y a encore de l'amélioration à faire. C'est sûr que c'est super important de mentionner qu'on s'améliore d'année après année. La consommation d'eau personnelle et résidentielle diminue. Il y a encore un chemin à faire avant d'atteindre nos objectifs de cette année.
Ce que j'en retiens, bien, c'est qu'on a beaucoup d'eau, mais il faut faire attention pour la conserver. Puis conserver aussi tous les systèmes là, qui sont autour, écosystèmes, même nos côtes, là, l'érosion côtière, tout ça, bien, ça a un impact là-dessus. Merci de passer, Philippe, avec tes conseils aujourd'hui concernant l'eau. Je vous rappelle, c'est une chronique aujourd'hui de Philippe Bouchard-Aucoin, qui est chargé de projet en aménagement, en changement climatique du côté de la MRC de la Côte de Gaspé. Merci beaucoup.
Merci. Bonne fin de journée.